Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'économie. Aujourd'hui, on prend la température du commerce mondial.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nouvelle série consacrée cette semaine au déconfinement de l'économie mondiale alors que la pandémie s'essouffle. Demain, on fera escale en Europe, où les 27 tentent d'apporter une réponse coordonnée à la crise. Mercredi, on ouvre le débat. L'État doit-il prendre le contrôle de la relance ? Enfin, jeudi, on ira faire un tour du côté des marchés financiers. Mais d'abord, prenons le pouls d'une mondialisation sérieusement ébranlée par la pandémie. Quelle relation commerciale à l'heure où chacun est tenté par le repli sur soi ? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure mercantile d'Entendez-vous l'écho. Nous allons nous rendre au chevet de l'hypermondialisation en compagnie de nos deux invités. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et bonjour Jean-Marc Sirouen.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine. Merci à tous les deux de vous prêter au jeu de l'entretien à distance. Et d'abord, je voudrais que l'on fasse un premier bilan des conséquences de la crise sanitaire sur le commerce mondial. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, prévoit une baisse du volume des échanges de marchandises de 13 à 32% pour l'année 2020. C'est un ralentissement considérable, Sébastien Jean.
Oui, c'est un ralentissement considérable, sans précédent récent. Ce qui est intéressant dans cette prévision, c'est à la fois l'ampleur extrêmement grande de ce qui est prévu comme baisse et en même temps la fourchette qui est très large, qui dit beaucoup de l'incertitude, de l'espèce de brouillard dans lequel on est. Rendez-vous compte, entre 13 et 32%, vraiment, il y a presque 20 points d'écart. J'ai jamais vu ça pour une prévision pour l'année courante. Donc, le commerce va chuter brutalement. Beaucoup plus brutalement même qu'en 2009, probablement au moins deux fois plus brutalement. On sait que le commerce est très cyclique, plus cyclique que l'activité générale, donc d'une certaine façon, c'est pas surprenant. Et finalement, la plupart des composantes du commerce mondial sont touchées. Donc on a déjà vu des effets très brutaux sur les prix des matières premières, sur le pétrole, sur un certain nombre d'autres matières premières. On a vu des effets très brutaux aussi sur l'activité des différents pays, donc sur leurs achats. Et des effets qui plus est, qui sont d'autant plus forts sur les biens d'investissement que sur le reste de l'économie. Or, les biens d'investissement souvent sont les plus intenses en commerce, en échanges internationaux.
On va revenir sur les secteurs et les pays qui sont le plus touchés par ce ralentissement brutal du commerce mondial. Mais un mot d'abord, Jean-Marc Sirouen, sur cette chute des échanges qui est, comme le disait Sébastien Jean, bien plus forte qu'en 2009.
Plus forte, on verra. En 2009, la chute du commerce mondial en valeur, en volume, sur les 8 mois où il a chuté, c'était plus de 40% et 50% pour la Chine. Donc c'était une diminution considérable, mais une partie était due à la baisse des prix, qui sera peut-être moins importante maintenant si le prix du pétrole reprenait quelques couleurs, ce qui n'est pas sûr. Donc on est effectivement dans les prévisions de l'OMC à peu près dans les mêmes zones de ce qui a été réalisé, parce qu'il avait été prévu sur 8 mois. Les 8 mois de chute du commerce international en 2009, c'était entre juillet 2008 et février 2009. Donc cette chute est tout à fait prévisible et tout à fait vraisemblable. Il y a toujours une amplification à la hausse ou à la baisse du PIB mondial. Donc lorsque le PIB mondial augmente, le commerce augmente plus rapidement, même si c'était beaucoup moins vrai, même plus vrai du tout ces 10 dernières années. Par contre, effectivement, lorsque le PIB diminue, il y a un autre effet d'amplification, cette fois-ci négatif. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 2009, où la chute du PIB mondial, qui avait été finalement relativement faible, puisque les pays émergents avaient conservé des taux légèrement positifs. Là, cette fois-ci, la chute du PIB mondial va être sans doute beaucoup plus importante qu'en 2008 et 2009, et donc effectivement, le commerce international devrait lui aussi chuter à peu près dans l'ampleur qui est évaluée, qui est estimée à l'heure actuelle par l'OMC, peut-être même davantage. Mais tout dépendra, bien entendu, de la rapidité de la reprise.
Encore beaucoup d'incertitudes, mais ce que l'on sait déjà, Sébastien Jean, c'est que le fret maritime a été touché évidemment de plein fouet par la chute des échanges.
Oui, alors bon, les prix du fret étaient déjà plutôt relativement bas, mais c'est effectivement un premier indicateur. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est que la crise a aussi paralysé une partie des capacités du commerce international. Donc, même l'indicateur de prix ne rend pas complètement compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ports qui ont imposé des quarantaines, par exemple, de navires qui étaient immobilisés. Pour le fret aérien, c'est encore plus perturbant parce que la moitié à peu près du fret aérien normal est transporté dans les soutes d'avions qui transportent des passagers. Or, il y a eu une paralysie à peu près totale du transport de passagers. Donc, ça a aussi beaucoup perturbé le trafic aérien, si bien qu'il y avait un manque de capacité de transport aérien et que là, pour le coup, les prix du fret aérien ont augmenté très sensiblement.
Le commerce mondial, avant le début de la pandémie, ne se portait pas non plus très bien. Il avait particulièrement ralenti l'an dernier, en 2019, en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Sébastien Jean?
Le commerce mondial est ralenti depuis la crise financière. Il n'a plus jamais retrouvé le rythme qui était le sien, disons, entre le début des années 90 et la crise financière de 2007-2008. Depuis 10 ans, en moyenne, il évolue à peu près au même rythme que la richesse mondiale, que le PIB mondial. Mais il est plus cyclique. Donc, quand il y a un bas de cycle, une croissance ralentie, et en particulier, il y avait eu un bas de cycle dans un certain nombre de secteurs industriels depuis 2 ans, ça se répercute de façon amplifiée sur le commerce mondial. Et c'est effectivement ce qui s'était passé, c'est-à-dire un ralentissement très fort du commerce mondial. La causalité de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur le volume du commerce mondial, elle est plus difficile à établir, c'est-à-dire que clairement, elle a ralenti les échanges entre les États-Unis et la Chine, ça c'est clair, mais il y a eu aussi des effets de détournement, c'est-à-dire que ce que les Américains n'ont pas acheté aux Chinois, souvent ils l'ont acheté à d'autres pays, hein, et de même pour la Chine. Donc je mets plutôt un second ordre dans les causalités établies, même s'il est bien évident que ça a été un facteur perturbateur important.
Notamment parce que les droits de douane sur les produits chinois, là où ils étaient taxés en moyenne à 3% jusqu'à l'automne 2018, ils sont passés à 15% en septembre 2019. C'est un aspect qui a joué dans ce ralentissement du commerce mondial auquel on assiste depuis plusieurs années maintenant, Jean-Marc Sirouen.
Oui, bien sûr. Alors effectivement, comme le dit Sébastien Jean, l'effet est très très difficile à évaluer en ce qui concerne la croissance mondiale, qui est quand même le principal moteur du commerce, et ce qui est les droits de douane. Ça a quand même créé un climat d'incertitude qui est lui aussi difficilement quantifiable, même s'il y a des effets de détournement. Malgré tout, c'est pas toujours si simple que ça. Ça crée des coûts, hein. Si on s'approvisionnait en Chine ou aux États-Unis, ce n'était pas pour rien. Donc, si on doit aller chercher ailleurs, ce n'est pas sans répercussion sur l'économie mondiale. Mais je pense effectivement que, de toute façon, le commerce mondial ralentissait avant cette montée protectionniste. Il avait bien repris juste après la crise, mais pour rester à un niveau à peu près constant, avec effectivement des hauts et des bas, hein, comme Sébastien Jean le disait, et qu'il y a eu un ralentissement à la fois de la croissance mondiale, mais aussi du commerce mondial, ce qui est un peu normal puisque les deux sont liés. En réalité, la grande rupture post-crise financière de 2008, c'est que la Chine a pu jouer son rôle de locomotive pendant les années 2000 et à la fin des années 90. C'est la croissance chinoise qui tirait tout le monde, qui tirait les prix des matières premières à la hausse, ce qui était très bon pour les pays émergents qui ont connu une période particulièrement faste du point de vue de leur économie, ce qui favorisait les exportations des pays industriels. Donc on avait une croissance chinoise qui entretenait à la fois donc la croissance mondiale et le commerce international. Ça a disparu, en tout cas ça s'est beaucoup atténué après la crise de 2008. On n'a plus de locomotive aujourd'hui.
On n'a plus de locomotive, Sébastien Jean, et ce qu'on constate du côté de la Chine, c'est que le pays est fragilisé par la baisse des exportations, mais aussi par la baisse de la demande intérieure.
Oui, on constate effectivement qu'en Chine, la demande intérieure reprend plus lentement même que la production. C'est intéressant d'observer évidemment ce qui se passe en Chine parce que c'est le pays qui a été frappé en premier par la crise. Donc, on a envie d'en tirer des leçons sur ce qui nous attend. Je pense qu'il faut se méfier. Il y a de grandes différences structurelles entre l'économie chinoise et les économies, notamment européennes, en particulier parce qu'on a des systèmes de protection sociale, on a eu des réponses à la crise qui ont été d'une nature différente, qui notamment ont beaucoup plus maintenu les revenus des salariés. Néanmoins, C'est intéressant de voir ce qui se passe et donc on voit notamment une consommation relativement atone en Chine au sortir du confinement, si bien que on a une demande qui est orientée à la baisse, des prix qui sont orientés à la baisse, les prix industriels notamment, et comme par ailleurs, la demande mondiale est elle-même très déprimée par l'épidémie. Ça donne une situation effectivement de croissance ralentie en Chine et de surcapacité de production finalement par rapport à la demande.
Une consommation qui redémarre lentement en Chine, notamment parce que le chômage a explosé dans le pays.
C'est difficile de trouver un emploi pendant une pandémie. Et les salaires sont plus bas qu'avant. Mais je n'ai pas le choix. Il faut bien vivre. Je dois travailler avec un salaire plus bas.
Le taux de chômage chinois actuel se tient à 6%. Mais aucune de ces personnes n'est comptabilisée dans les données officielles. Un cabinet de courtage a estimé que le taux réel se trouve en fait à 20%. Un rapport qui a été ensuite retiré.
Je vais bientôt finir mes études et l'angoisse est en train de prendre le dessus. Je ne sais pas si je vais trouver un emploi correct. Je ne sais pas non plus ce qui va se passer l'année prochaine, si je dois postuler pour un master. Il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui préparent ça pour l'année prochaine. La pression monte et à cause de la pandémie, je suis angoissé et inquiet.
Des témoignages recueillis par France 24. Ceux qui ont subi les conséquences économiques de cette crise, ce sont avant tout les travailleurs migrants, Sébastien Jean.
Oui, cette crise, elle est inégalitaire partout, hein, mais c'est particulièrement net en Chine parce que, effectivement, il y a tous ces travailleurs migrants qui n'ont pas d'assurance sociale, en fait, pour l'essentiel, qui d'ailleurs, pour beaucoup, au moment où le confinement a été mis en œuvre, étaient rentrés chez eux, donc n'étaient plus sur leur lieu de travail et qui sont restés sans revenus pendant la crise. Or, la différence de la réponse de politique publique en Chine par rapport à l'Europe, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de soutien aux revenus des ménages et des salariés. Il y a eu beaucoup de soutien à l'activité, aux entreprises, à la trésorerie des entreprises en particulier, mais pas aux revenus des ménages. Donc, ce sont ces travailleurs migrants précaires qui ont subi de plein fouet les effets de la crise. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique de voir ce qui s'est passé à la fin du confinement. On n'a pas vu de reprise vraiment dynamique de la consommation en Chine, sauf pour les biens de luxe. Et je pense que ça reflète le caractère inégalitaire, c'est-à-dire que ceux qui ont préservé leurs revenus pendant la crise, c'est des gens qui étaient déjà employés par des grandes entreprises, souvent dans des entreprises d'État ou des entreprises privées d'ailleurs, et finalement ceux-là, ils ont épargné pendant la crise parce qu'ils consommaient très peu, mais en revanche, les plus précaires n'ont pas pu le faire.
Jean-Marc Sirouen, sur le creusement des inégalités en Chine et sur la difficulté de la reprise économique du pays.
Oui, on a une situation où, contrairement à l'Europe, hein, il n'y a pas eu de sauvegarde ni de l'emploi, ni du pouvoir d'achat. En plus, il y a, de la part des consommateurs chinois, des ménages chinois, en règle générale, vous avez un taux d'épargne qui est particulièrement élevé, qui montre que les Chinois sont très sensibles sur les incertitudes, sur les risques qu'ils encourent, d'autant plus qu'il n'y a pas de système social. Les systèmes de retraite ou les systèmes de protection sociale n'ont rien à voir en Chine avec ce qu'ils peuvent avoir dans l'Occident. Donc habituellement, par habitude, les Chinois épargnent beaucoup. Alors, un pays où on épargne beaucoup et on a une chute des revenus, il ne faut pas trop s'étonner que la demande ait quelques difficultés à être relancée. Donc, effectivement, pour la Chine, les inégalités sociales et le manque de couverture sociale jouent dans le sens du ralentissement de la reprise de la demande. Oui, ça remet en cause la stratégie chinoise qui était d'entretenir la croissance de plus en plus par la consommation, par la demande intérieure. Et là, on voit la difficulté qu'il y a pour justement relancer ces demandes intérieures. Donc d'une certaine manière, on peut considérer que la Chine fait aussi un peu un retour en arrière par rapport à ses stratégies de croissance, sauf qu'elle n'a plus vraiment de stratégie de croissance disponible aujourd'hui, du moins à court terme. Peut-être que ça reviendra à moyen terme, que la consommation repartira à moyen terme. Mais là, on voit bien les failles du système économique chinois très inégalitaire qui les expose peut-être davantage, l'avenir le dira, que les pays européens où une couverture sociale est plus forte, où la préférence pour la consommation est également plus forte, et qui devrait, on peut l'espérer en tout cas, permettre une reprise de la demande plus rapide dans les pays européens que ce qu'elle n'a été en Chine.
Et il faut souligner que la Chine a décidé pour la première fois cette année de ne pas se fixer d'objectifs de croissance pour 2020. Mais au-delà de la Chine, on peut dire que les pays émergents sont particulièrement touchés, surtout ceux qui dépendent beaucoup de l'exportation de pétrole, Sébastien Jean.
Oui, les pays émergents sont touchés de plusieurs manières. Vous avez raison de souligner que peut-être la plus directe, c'est l'effondrement quand même très spectaculaire des prix du pétrole. Très spectaculaire parce qu'il a été amplifié par cette guerre un peu des pays producteurs de pétrole, ce manque de coordination et même cette confrontation entre la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis au fond, qui ont fait coïncider avec cette baisse de la demande une offre qui était dynamique, disons. Donc les prix se sont absolument effondrés. Mais il n'y a pas que le pétrole, il y a un certain nombre d'autres matières premières dont les prix ont baissé. Il y a l'effondrement des revenus du tourisme qui pour un certain nombre de pays émergents est une très mauvaise nouvelle aussi, pour beaucoup d'entre eux c'est une de leurs principales sources de revenus. Et puis il y a ce climat de très grande incertitude qui déstabilise les marchés financiers et qui a fait fuir beaucoup de capitaux qui sont allés chercher refuge aux États-Unis parce que le marché est plus profond, parce que c'est synonyme généralement dans l'esprit des investisseurs d'une moindre incertitude. Donc on a vu à peu près 100 milliards de dollars dans les premières semaines consécutives vraiment à l'extension de la crise quitter les économies émergentes, et ça pose évidemment beaucoup de problèmes de financement pour elles. Donc il y a un risque réel de crise de la dette dans un certain nombre de pays émergents, tous ceux qui ont des fragilités par rapport à l'endettement de court terme, par rapport à l'importance des revenus issus des matières premières ou du tourisme. Le FMI notamment a joué les pompiers en réagissant de façon rapide pour accorder des lignes de financement, mais on n'est pas du tout au bout de l'histoire.
C'est en tout cas une crise qui a relancé le débat sur l'annulation de la dette des pays africains. À cette question, Emmanuel Macron répond que c'est une nécessité aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter.
Je suis favorable à une initiative d'annulation de dette massive. Donc, à court terme, on a eu une discussion. Il y a 4 représentants spéciaux qui ont été mandatés par l'Union africaine. Ils ont fait des propositions. Moi, j'ai souhaité qu'on reprenne leurs propositions. Leur proposition, c'est de dire moratoire. Parce qu'on a beaucoup discuté, ils ont beaucoup travaillé. Ils disent l'annulation n'y arrivera pas tout de suite. Mais le moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne rembourse plus les intérêts. Vous nous laissez de l'oxygène. On étale cette dette et on peut peut-être mettre tout le monde d'accord autour de cette idée. Mercredi soir, le G20 Finance doit acter, je touche du bois, en tout cas on y a mis tout notre capital politique, de ce moratoire sur les dettes à l'égard de l'Afrique. Moratoire qui touche les membres du Club de Paris, mais aussi la Chine, la Russie, l'ensemble des économies du Golfe et les grands bailleurs multilatéraux. C'est une première mondiale. C'est une étape indispensable et je pense que c'est une formidable avancée. Maintenant, elle doit précéder d'autres étapes qui sont des étapes de restructuration de la dette africaine. Mais on ne peut pas non plus dire cet effort il sera fait que par quelques-uns et les autres ne le feront pas. Il doit être le même chez tous les grands bailleurs.
Un moratoire d'abord, une restructuration de la dette ensuite. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions, Sébastien Jean ?
Ce qui est assez caractéristique, c'est que justement, les propositions qui ont été adoptées, elles se limitent à un moratoire du remboursement de la dette pour cette année. Et ce qui est revenu d'ailleurs à plusieurs reprises là dans l'extrait que vous venez de passer, c'est le rôle de la Chine. Et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de changer la donne sur cette question de restructuration des dettes des pays émergents. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était les grands bailleurs qui étaient les pays avant, les économies avancées qui se coordonnaient pour gérer ça. Et aujourd'hui, le premier créditeur, c'est devenu la Chine. Donc, il y a un enjeu majeur à, disons, on peut pas avoir ce genre de discussion vraiment sans inclure la Chine. Et la Chine, elle, est extrêmement réticente à toute restructuration de la dette. Donc, de restructuration, ça voudrait dire non plus jouer sur les intérêts qui sont payés, mais jouer éventuellement sur le principal qui est remboursé, donc sur ce qui va être touché in fine, soit le réchelonner dans le temps, soit réduire ce qui va être remboursé. Et au fond, la Chine, ici, est mise face aux conséquences de sa politique, notamment par l'initiative des routes de la soie, qui a été d'investir dans énormément de pays à l'étranger. Elle est en train de faire l'expérience du fait que parfois ça pose problème, la capacité des partenaires à rembourser pose problème.
Et en même temps, la situation des pays en développement est particulièrement inquiétante, Jean-Marc Sirouen, parce que c'est des pays qui étaient, avant même le début de la crise sanitaire, déjà extrêmement endettés.
Il s'était beaucoup désendetté dans les années 2000, mais c'est vrai que là aussi, une conséquence du ralentissement de l'économie mondiale et du prix des matières premières notamment, de nouveau, il s'était réendetté ces 10 dernières années. Alors, on n'atteignait pas les niveaux des années 80-90, mais c'est vrai qu'il commençait à y avoir pas mal d'inquiétudes sur ce réendettement des pays émergents. Alors, évidemment, il y avait des inquiétudes lorsque, bon, il n'y avait pas encore vraiment de crise d'annoncer, même si les incertitudes existaient. La crise actuelle, effectivement, va impliquer des décisions très très fortes sur les pays les plus endettés et dont la solvabilité n'est plus envisageable.
Aujourd'hui, la pandémie s'essouffle et un certain nombre d'économies redémarrent et ont mis fin au confinement. Comment s'opère justement le redémarrage des échanges? Ce que l'on constate, Sébastien Jean, c'est que les frontières rouvrent progressivement?
Oui, de façon finalement relativement désordonnée, parce que ce choc n'était ni synchrone entre pays, ni homogène dans l'impact économique qu'il a eu. Donc on a des perturbations de court terme, je vous parlais tout à l'heure aussi des bateaux qui dans certains cas avaient été immobilisés dans des ports, pas forcément à l'endroit où il serait le plus utile, donc tout ça est assez désordonné. Pour l'instant, à mon sens, il est difficile d'y voir clair sur la façon dont ce redémarrage va vraiment s'opérer dans la durée. On voit qu'on a des chiffres d'un mois sur l'autre qui sont assez variables et par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé, les derniers chiffres pour la Chine qui sont pour le mois d'avril, donc en sortie de confinement, ben finalement, ils ont eu une baisse significative par rapport à l'an dernier de leurs importations, de l'ordre de 14% si ma mémoire est bonne, mais dans le même temps, leurs exportations sont plus importantes que l'an dernier. Donc,
c'est beaucoup du matériel médical ?
Beaucoup du matériel médical, effectivement, lié à la crise, évidemment, avec en plus des prix qui étaient orientés à la hausse. Donc tout ça, on est encore dans, je dirais, la confusion de cette crise qui est une très grosse perturbation et on n'est pas du tout dans un régime établi d'après-crise. Voilà, donc il est un peu trop tôt, à mon sens, pour savoir comment tout ça va se dérouler dans les mois qui viennent.
En effet, des mesures de restriction à l'exportation ont été instaurées avec la crise et on ne sait pas encore, Jean-Marc Siroen, si certaines d'entre elles ne pourraient pas être maintenues de façon un peu plus durable.
Oui, donc il y a eu des restrictions effectivement sur deux grands types de produits, hein, donc les produits qui sont directement liés à la crise, hein, les respirateurs, les masques, où là chacun a eu une politique quand même assez, j'allais dire égoïste, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas assez nationaliste. Et il y a eu d'autres restrictions sur les produits alimentaires, du fait de la crainte de pénurie alimentaire qu'il y avait. Ce qui fait que non seulement les consommateurs, mais parfois aussi certains États ont un peu surstocké, ce qui n'a fait qu'aggraver peut-être la crise ou les tensions sur certains produits. Donc effectivement, il y a eu, en dehors des mesures protectionnistes qui avaient été prises avant la crise, notamment par les États-Unis, il y a eu dans chaque pays, et même à l'intérieur de l'Europe, entre pays européens, des mesures restrictives sur le commerce. Donc je pense qu'une bonne partie d'entre elles devraient s'arrêter par elles-mêmes, hein. Je suis pas sûr qu'on soit obligé aujourd'hui de gérer les masques, de planifier les masques comme on l'a fait ces dernières semaines. Néanmoins, des habitudes auront été prises et alors, j'allais dire des mauvaises habitudes, non, sans doute que c'était justifié assez largement, mais mauvaises en ce sens que ça aurait été bien mieux s'il y avait une coordination entre les pays pour planifier, entre guillemets, ces produits qui étaient en situation de pénurie. Donc oui, on s'est un peu habitué à des mesures protectionnistes, un peu nationales, un peu égoïsme. On peut presque reprendre, si on caricature un peu, le terme d'égoïsme sacré qui avait été utilisé dans les années 30, de la part d'à peu près tous les pays.
L'un des enseignements de la crise, c'est aussi l'accélération de la numérisation de l'économie. Est-ce qu'il faut s'attendre, Sébastien Jean, à une baisse du commerce de biens manufacturés, mais à une hausse du commerce des services?
Bon, s'agissant de la baisse du commerce de produits manufacturés, on va voir, c'est possible. Je pense que ça n'est pas écrit, disons. Sur la numérisation, sur l'utilisation de la téléprésence, hein, comme ça a été appelé parfois, enfin, de ces échanges à distance, de ces visioconférences, de la coordination distante, je pense effectivement que c'est un des aspects, c'est pas le seul, pour lequel la crise peut jouer un rôle d'accélérateur, parce que finalement, elle arrive à un moment, qui plus est, où un certain nombre de possibilités technologiques sont là. Il y a eu beaucoup de progression ces dernières années, justement dans ces possibilités de visioconférence, par exemple, d'échange de données. Et finalement, ça a mis tout le monde en situation d'expérimentation de leur utilisation intensive. Et je pense que ça fait réaliser des possibilités d'organisation qui avaient été relativement peu mises en œuvre jusqu'ici. Et il y a une sorte d'expérimentation forcée, d'accélération de la période d'expérimentation. Donc, à mon avis, ça a raccourci la période de changement. Comme on est déjà dans des changements technologiques assez rapides, on peut effectivement penser que ça va se traduire par des changements significatifs. Alors, est-ce que ça va donner plus de délocalisation de services parce que un certain nombre d'entreprises vont avoir recours à des prestataires distants en s'appuyant sur ces technologies? C'est une véritable possibilité.
Cette reprise du commerce mondial pourrait en tout cas être entravée par les rivalités d'hier, en particulier entre la Chine et les États-Unis. On en parle dans un instant, mais d'abord, vous avez rendez-vous avec Rhône Bora-Vocal sur France Culture.
Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret, il y a une vérité simple, sobre, crue. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire, isole? Isola, l'île, quoi. Tu crées ton île et tu l'évases au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin, parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi. L'énorme puissance d'univers, quoi. Faut que Caracol, il existe en toi complètement, que Hertov Strocknis, il soit toi, quoi. Que Piedro de la Roca, tu le deviennes. Et la goutte aussi, et tout l'univers et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, quoi. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut, quoi. Et tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu ne fasses aucune concession sur le reste, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça restera, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme dirait Sartre, t'es pas superflu, quoi. Là t'as une nécessité quand t'écris ça. D'être, et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut putain tenir, quoi. Lâche pas le morceau, tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession, quoi. Y'a pas de concession avec la vie, quoi. Y'a pas de concession, quoi. Tu vis, on faut vivre à fond.
Bora Vocal, le duo de Rhône et Alain Damasio sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Suite de notre épisode consacré au lent redémarrage du commerce mondial, nous sommes toujours en compagnie des économistes Sébastien Jean et Jean-Marc Sirouen. Alors la crise sanitaire a-t-elle enfoncé le dernier clou du cercueil de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui, je le rappelle, a vu le jour le 15 avril 1994 à Marrakech, comme on peut l'entendre dans cet extrait du journal d'Antenne 2.
Écoutez, je pense que cet accord va permettre à des pays en voie de développement de diversifier leurs relations. Et je crois que c'est très important de passer d'un stade bilatéral à un stade multilatéral.
Cela nous impose de travailler davantage, de croire à notre chance, de nous battre un peu à l'instar des pays des autres continents. L'Asie, il y a environ un demi-siècle, était dans la position que nous connaissons aujourd'hui.
On vient d'entendre les ministres du commerce extérieur marocains, béninois. Quels étaient les objectifs poursuivis lors de la création de l'OMC en 1994, Jean-Marc Sirouen ?
1994, c'est une date importante, mais en réalité, beaucoup de choses en tout cas se trouvaient dans le GATT, l'accord qui a été ensuite inclus à l'OMC, dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la période où le multilatéralisme est créé, est institué. Le GATT était une des institutions qui rentrait dans ce cadre multilatéral. Alors pas tout à fait avec le même statut que le FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations, mais malgré tout, c'était un accord de type multilatéral. Ce qu'a fait l'accord de Marrakech, c'est effectivement créer l'OMC, c'est-à-dire de faire une vraie organisation, ce que n'était pas le GATT, d'intégrer un certain nombre de choses qui n'existaient pas, comme les services qui n'étaient pas régis par le GATT. Le GATT, c'était uniquement les commerces de biens. Donc l'accord de Marrakech et l'OMC ont intégré les services. Ils ont intégré le droit de la propriété intellectuelle et également une procédure de règlement des différends qui existait dans le GATT, mais qui était totalement inopérante et qui a été modifiée. La procédure a été modifiée pour la rendre automatique, c'est-à-dire qu'un pays qui porte plainte à l'OMC doit être assuré que la plainte ira jusqu'au bout, ce qui maintenant n'est plus tout à fait le cas depuis que les États-Unis refusent d'accepter la nomination de nouveaux juges à l'organe d'appel qui était la phase ultime de la procédure de règlement des différends. Donc c'est cela qu'apporte l'OMC.
L'organisme de règlement des différends est en effet paralysé aujourd'hui. Vous diriez que le multilatéralisme commercial n'a jamais été si mal en point, Sébastien Jean ?
Je dirais en tout cas qu'il est gravement déstabilisé et gravement menacé, effectivement. Et il y a à ça des raisons conjoncturelles. Évidemment, la politique commerciale agressive de l'administration Trump en est une particulièrement importante. Il y a aussi des raisons structurelles, c'est que justement les règles qui organisent le commerce mondial aujourd'hui, elles ont été négociées pour le dernier ensemble vraiment significatif lors du cycle d'Uruguay entre 1986 et 1993. Donc elles n'ont plus du tout été mises à jour depuis presque 30 ans. Or, les choses ont énormément changé depuis, à la fois dans les technologies qu'on met en œuvre et puis dans les acteurs de ce commerce, et on pense en premier lieu à la Chine et aux autres grands émergents. Et qui plus est, donc l'entrée de la Chine, elle s'est faite un peu avec le pari ou l'anticipation du fait que la Chine allait se rapprocher du fonctionnement des autres grands acteurs de l'économie mondiale, allait fonctionner comme une économie de marché plus décentralisée, disons. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie différence du système chinois par rapport aux autres économies. Et ça pose des problèmes pour s'assurer que les règles existantes permettent une concurrence équitable. Donc, il y a un système qui est un peu daté, n'a pas su se mettre à jour et qui est face à cette crise qui est extrêmement déstabilisante, extrêmement créatrice de tensions, à la fois parce qu'on va au-devant d'années de crise économique et puis parce que les intérêts des pays pour réagir à ça seront assez différents les uns des autres, assez conflictuels.
On se demande un peu comment peut se relever aujourd'hui l'OMC, Jean-Marc Sirohen, et le fait que le directeur de l'OMC, le Brésilien Roberto Azevedo, ait annoncé sa démission le mois dernier ne va pas vraiment dans le sens d'une amélioration.
Oui, je ne sais pas. Il était un homme peut remplacer un autre. Alors on ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi il a démissionné, mais je dirais peu importe. Là, c'est la grande question à venir. Est-ce que la crise de l'OMC, presque en état de mort cérébrale aujourd'hui, puisqu'elle a perdu ses deux grandes fonctions, qui étaient l'organisation des négociations multilatérales, comme on vient de le rappeler, depuis plus de 25 ans, il n'y a pas eu de nouveau cycle de négociations qui ait pu s'achever, et dans la procédure de règlement des différends, qui est l'autre grand échec. Dans ces deux domaines, il y a certainement des mesures à prendre, mais ce n'est pas forcément facile. Un des grands principes de l'OMC, c'est la règle du consensus. Donc il faut trouver des moyens, et il en existe, si on a la volonté de les mettre en place, de contourner cette règle du consensus, notamment par des accords qui pourraient être mis en place sans que tout le monde soit d'accord. C'est ce qu'on appelle des accords plurilatéraux qui n'engageraient que ceux qui les ont signés, ce qui est plus ou moins pratiqué dans quelques accords, notamment le dernier accord qui a été signé à l'OMC sur la facilitation du commerce. Il n'était pas exigé que tous les membres ratifient cet accord. Donc il y a eu quelques expérimentations, dont celui que je viens de citer, qui montrent qu'il y a des voies de sortie. De même pour la procédure de règlement des différends, en réalité, les problèmes qui sont posés par les États-Unis, mais aussi par l'Union européenne, on peut trouver des solutions, on peut trouver des améliorations. Ce qui manque, c'est la volonté. C'est-à-dire que c'est pas tellement... Alors c'est vrai que c'est une organisation qui mérite d'être fortement rénovée, qui mérite d'être construite, mais on a dans l'histoire beaucoup d'autres organisations qui se sont complètement renouvelées, à commencer par le Fonds monétaire international, qui n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il avait lorsqu'il avait été créé à Bretton Woods. Et la principale difficulté, c'est le manque de volonté, parce que les États-Unis, finalement, ont abandonné le rôle de leadership qu'ils voulaient exercer dans le multilatéralisme, et notamment à l'OMC, parce que la Chine est là, qui voudrait bien ramasser la mise, parce que l'Europe, elle ne sait pas trop. Là, bon, un certain nombre de faiblesses qui, pour l'instant, ont empêché de mettre à plat la réforme de l'OMC.
Alors, cette question du leadership que vous soulignez, elle est importante, Jean-Marc Sirohen. Effectivement, pour que le multilatéralisme fonctionne, il faut un ou plusieurs leaders clairement identifiés. La Grande-Bretagne avait joué ce rôle au 19e siècle. Et les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on se demande qui va reprendre ce leadership.
C'est une grande question que se posent les politologues depuis notamment la chute du mur de Berlin. C'était la grande question des années 90 et 2000. Est-ce qu'on peut envisager un monde de post-leaders? Certains répondaient non, il faut absolument un leadership. Pour d'autres, au contraire, on pouvait penser que les organisations internationales pourraient finalement prendre suffisamment de pouvoir pour fonctionner un petit peu avec une légitimité qui leur permettrait non pas d'avoir une suprématie sur les États, mais en tout cas d'organiser relativement indépendamment le multilatéralisme. Bon, ça, cet espoir, c'est vrai qu'il a été déçu jusqu'à maintenant. On peut peut-être espérer que les choses changeront dans l'avenir, notamment à la suite de crises.
Mais ces instances internationales ont tout de même joué un rôle important pendant cette crise. Alors, d'un côté, effectivement, l'OMC traverse des difficultés importantes, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, encore plus puisque les États-Unis l'ont quitté récemment. Et en même temps, vous parliez du FMI, Jean-Marc Sirohen, il a joué un rôle absolument essentiel dans le secours des pays en développement, Sébastien Jean.
Effectivement, le FMI a joué ce rôle un peu de fourniture de liquidités d'urgence pour un certain nombre de pays en développement, en le faisant très vite et pour des montants importants. Je crois que les facilités d'urgence qu'il a mis en place totalisent pas loin de 100 milliards de dollars. C'est très important. Maintenant, si on prend une vue plus large, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'il n'y a justement que sur le plan financier que le multilatéralisme, cette approche coordonnée au niveau global, a à peu près tenu la route. Sur l'aspect commercial, à mon sens, l'OMC a brillé par son absence. Elle a été, de toute façon, c'est une organisation. Elle est menée par ses membres. Elle n'a pas vraiment de puissance propre, mais elle aurait pu jouer un rôle de coordination, d'échange actif d'informations, éviter qu'il y ait trop de discordance et de, disons, essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages de ses réponses commerciales. Elle ne l'a pas fait. L'OMS, vous l'avez dit, est très contestée, parce que on a bien vu aussi qu'elle était complètement otage de la Chine dans sa communication, dans ses prises de position. Donc là aussi, il y a un vrai problème. Donc, au fond, aujourd'hui, le multilatéralisme est quand même très menacé sur beaucoup de fronts. Donc ça résiste un peu sur le côté financier, parce que finalement, là, il y a peut-être un besoin plus immédiat, plus manifeste. Il y a des règles plus claires qui sont en vigueur aussi. Mais c'est un peu le seul aspect sur lequel il y a une véritable résistance d'une approche un peu coordonnée.
Et ça, c'est peut-être une différence avec la crise de 2008, Jean-Marc Sirohen. La crise, à ce moment-là, avait été gérée de façon beaucoup plus collective, notamment par le biais du G20.
Oui, certainement. Alors, sur le FMI, il faut voir aussi que s'il y a un domaine où les États-Unis restent relativement puissants, c'est plutôt au Fonds monétaire international, puisque là, ils ont un droit de veto et que le dollar reste la monnaie dominante, et qui, quoi qu'on en dise, n'est pas vraiment remise en cause aujourd'hui. Alors, c'est vrai que après la crise de 2008, le multilatéralisme avait davantage fonctionné. Il y a eu une grande peur, peut-être plus forte que sur la crise du Covid, mais c'était pas non plus exactement le même type de crise, c'était une crise financière, alors que la crise du Covid n'est pas une crise financière. Et assez vite, le G20 est devenu la première instance de gestion multilatérale de la crise, a pris un certain nombre d'initiatives, qui, s'est un peu évanoui par le temps. Mais ce qui est assez étonnant de voir aujourd'hui, c'est que personne n'a vraiment pensé à relancer le G20, à part peut-être une ou deux téléconférences entre les principaux membres du G20. Il s'est absolument rien passé. Après la crise de 2008, on parlait d'un nouveau Bretton Woods, ce qui était peut-être un peu exagéré. C'est un peu le G20 qui a joué ce rôle de nouveau Bretton Woods. Là, personne n'a vraiment réclamé une réunion de l'ensemble des chefs d'État pour lutter de manière coordonnée, non seulement sur la crise du Covid, qui l'aurait mérité, mais sur la crise économique dont on savait dès le départ qu'elle surviendrait.
Et alors que la crise battait son plein entre la Chine et les États-Unis, les hostilités ont repris.
L'OMS a volontairement pris les garanties de la Chine au pied de la lettre et a défendu les actions du gouvernement chinois en saluant même la Chine pour sa soi-disant transparence. Je ne suis pas de cet avis.
Ce dimanche, dans une interview à la chaîne ABC, le secrétaire d'État Mike Pompeo a enlevé ses gants et a pointé du doigt Pékin. La Chine est connue pour infecter le monde, dit Mike Pompeo. Il affirme que le virus est bien parti d'un laboratoire de Wuhan.
Monsieur Pompeo s'est exprimé à plusieurs reprises, mais il ne peut présenter aucune preuve. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucune. Je pense donc que cette affaire devrait être confiée aux scientifiques et aux professionnels de la santé, plutôt qu'à des politiciens qui mentent pour des raisons de politique intérieure.
Vous avez reconnu Donald Trump, suivi de la responsable chinoise du ministère des Affaires étrangères. La crise du coronavirus a donc donné lieu à une escalade verbale entre la Chine et les États-Unis. Comment interpréter ces tensions, Sébastien Jean ?
La rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine est en train de se cristalliser. Il me semble, c'est surtout ça que l'on voit se traduire dans cette confrontation. Il y avait eu cet accord commercial dit de phase 1, signé le 15 janvier, qui au fond ne résolvait rien, qui arrangeait politiquement Trump pour des questions d'affichage, mais dont on sentait bien qu'il ne réglait aucun des problèmes de fond qui se posaient. Et aujourd'hui, on a finalement une position de confrontation qui est en train de se répandre aux États-Unis par rapport à la Chine. Beaucoup de gens qui sont tentés par l'opposition à la Chine, par le découplage, comme ils disent, entre l'économie américaine et l'économie chinoise. Et ces positions sont de plus en plus largement partagées entre républicains et démocrates, et même au sein des milieux d'affaires. Donc il ne s'agit même pas, en l'occurrence, de savoir si Donald Trump sera réélu ou non. Certes, il est particulièrement clivant lui-même personnellement, mais même s'il était battu en novembre prochain, on peut penser que l'atmosphère de confrontation entre les États-Unis et la Chine perdurerait, parce que on voit bien qu'il y a même une sorte de surenchère entre les candidats. Ça devient un argument de campagne de se confronter à la Chine. Et il y a des éléments de langage, d'ailleurs largement partagé, qui laisse penser à un peu un début de guerre froide économique sur beaucoup d'aspects, des mesures notamment de contrôle des exportations pour interdire à des entreprises américaines de vendre des produits technologiques sensibles aux entreprises chinoises, donc notamment le cas de Huawei pour les semi-conducteurs, qui sont des mesures très dures. Donc là, on est un peu dans cette montée de rivalité qui, pour l'instant, est sur un mode très peu constructif, ce qui est inquiétant par rapport à la possibilité d'une réponse coordonnée, parce qu'une chose est de ne plus avoir de leader, ce qu'étaient les États-Unis avant, et autre chose est d'avoir, parmi des grandes puissances, un affrontement. Et là, c'est vraiment la pire des solutions.
Une montée des tensions entre la Chine et les États-Unis qui est liée en grande partie à la montée en gamme technologique de la Chine, Jean-Marc Sirohen.
Pas uniquement, mais c'est un élément important. Je crois que l'administration américaine n'a pas du tout apprécié le plan Made in China 2025, qui consiste justement à monter en gamme et donc éventuellement à concurrencer les États-Unis dans ce qui fait leur force, aussi bien les GAFA, puisqu'il y a des GAFA chinoises aussi, même si elles ne sont pas aussi mondialisées.
Les BATX.
Oui, et sur un certain nombre de secteurs, effectivement, on a cité Huawei, la téléphonie, la 5G, etc. Et là, les États-Unis ont peur de perdre leur leadership technologique. Ce n'est pas une crainte nouvelle, mais à chaque fois, ils avaient réussi à tirer à gagner contre l'Europe dans les années 60-70.
C'est une crainte de plus en plus justifiée, disons.
Contre le Japon. Vous savez, à l'époque, dans les années 80-90 avec le Japon, ça apparaissait aussi dans les discours aussi justifiés. Je ne suis pas sûr que la crainte par rapport à la Chine soit pire que ce qu'elle était vis-à-vis du Japon. La différence, c'est que la Chine, c'est beaucoup plus grand, que le Japon, politiquement, c'était contrôlé par les États-Unis, que la Chine a des ambitions de puissance mondiale. Le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne veulent plus être leaders parce que ça coûte trop cher, mais ils ne veulent pas non plus qu'il y ait d'autres leaders ou des pays qui puissent contredire la puissance américaine. Donc ça, c'est une contradiction qui est assez difficile à résoudre, et c'est ce qui se pose maintenant. C'est ce qui ne se posait pas, ou beaucoup moins à l'époque où le Japon ou l'Union européenne apparaissaient comme le grand rival, mais c'est ce qui apparaît aujourd'hui sur la Chine. Je pense que c'est ça qui fait la différence. D'une part, une crainte qui est une crainte, je dirais, relativement traditionnelle pour les États-Unis, mais jusqu'à maintenant, ils avaient toujours réussi à trouver la parade par le haut, c'est-à-dire en développement de nouvelles technologies. C'était les GAFA. La réponse au Japon, d'une certaine manière, ça a été Microsoft, Apple et les GAFA. Ils n'ont pas trouvé la réponse vis-à-vis de la Chine, qui les embête plus que le Japon, parce que la Chine peut devenir une grande puissance beaucoup plus inquiétante pour la suprématie américaine que ne l'était le Japon.
La Chine qui a annoncé le mois dernier, lors du rassemblement de l'Assemblée nationale populaire, qui réunit chaque année 3000 responsables du Parti communiste, que la relance passerait par le développement technologique. Sébastien Jean, sur cette rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le domaine des technologies.
Elle est centrale, effectivement, parce que le moteur, quand même, de ces tensions est stratégique. Et les technologies en question sont le nerf de la puissance, au fond, de demain, en particulier quand il s'agit de capacités de calcul, quand il s'agit de réseaux, d'infrastructures 5G, d'intelligence artificielle, etc. Et donc, les États-Unis, même s'ils ne veulent plus jouer ce rôle de leader, de coordinateur, n'envisagent pas que leur rôle prédominant dans la maîtrise de la puissance au niveau mondial soit remis en cause. D'où cette confrontation qui est à l'échelle mondiale une vraie menace, hein, parce que c'est une confrontation entre les deux superpuissances. Mais c'est vrai que la montée de la Chine et la menace qu'elle constitue pour les États-Unis accentue, exacerbe la nervosité et la tension autour de cette rivalité.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Sirohen et de Sébastien Jean pour parler du ralentissement du commerce mondial. Ce que l'on a constaté avec cette crise, c'est que pour beaucoup de détracteurs de la mondialisation, elle était le signe des défaillances de cette globalisation. Une majorité d'Allemands considèrent aujourd'hui la mondialisation comme un risque. C'est ce qui ressort d'un sondage publié le mois dernier par le Spiegel. La crise sanitaire a élargi l'adhésion un certain protectionnisme, Sébastien Jean.
On a entendu beaucoup d'analyses un peu à chaud, beaucoup de gens aussi, je crois, qui ont plaqué des idées ou leurs opinions préconçues sur la crise pour en faire une analyse un peu rapide. On a dit par exemple que c'était l'échec des chaînes de valeur parce qu'elles étaient trop vulnérables. Je ne suis pas sûr de voir ça, moi, dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les secteurs qui ont les chaînes de valeur les plus complexes, les plus longues, on peut penser à l'électronique, par exemple, n'ont pas moins bien résisté que les autres. Pour moi, ça n'est pas ça, le problème. Je crois que ce qui s'est passé, ce qui a été mis en évidence, c'est plutôt une question de dépendance. C'est-à-dire que on s'est aperçu, enfin, on le savait, mais disons, ça a été mis en lumière de façon un peu crue, que ces chaînes de valeur, elles nous rendaient dépendants de maillons, de fournisseurs, de maillons de la chaîne qui pouvaient être distants, qui parfois pouvaient être assez concentrés dans un pays qui n'est pas forcément un allié, qui est très distant, souvent la Chine d'ailleurs, et que ça pose un problème d'autonomie. Alors, est-ce que c'est un problème en général? Ce qui est clair, c'est que c'est un problème dans des secteurs qu'on considère un peu stratégiques. Alors, on avait l'habitude de penser comme secteur stratégique à la défense ou à l'alimentation, et on s'aperçoit que les produits de santé, notamment, dans un sens large, c'est également très stratégique, et on s'aperçoit aussi, on en a parlé tout à l'heure, que les infrastructures numériques aussi, c'est stratégique, parce que dans le sens où c'est vraiment très important dans le fonctionnement de nos économies modernes. Hein, donc, c'est plutôt, je crois, ce qui est mis en avant, à mon sens, le plus important, c'est ces questions d'autonomie stratégique, de dépendance, de capacité à contrôler ces fournisseurs. Aussi.
Alors faut-il justement relocaliser pour mieux sécuriser les approvisionnements? Écoutez à ce sujet Isabelle Méjean, spécialiste du commerce extérieur. Elle vient de remporter le prix du meilleur jeune économiste décerné par Le Monde et le Cercle des économistes.
C'est pas un problème de souveraineté industrielle, c'est un problème de trop forte concentration dans le commerce international tel qu'il est organisé aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des biens de consommation qu'on achète, et en particulier qu'on achète sur les marchés mondiaux, sont produits dans des chaînes de valeur, donc dans des modes d'organisation qui sont très concentrés, qui sont organisés autour d'un très petit nombre d'entreprises qui produisent la quasi-totalité totalité de la production mondiale. Donc, dans ce mode de production qui est organisé autour de très peu d'entreprises, on peut très facilement avoir des problèmes de rupture d'approvisionnement dès lors qu'une ou deux entreprises qui sont parties de la chaîne de production font face à des difficultés de productivité comme on peut avoir par exemple dans un cadre pandémique.
Le problème, ce n'est pas la distance géographique, mais le niveau de concentration, nous dit Isabelle Méjean. Vous êtes d'accord avec cela, Jean-Marc Sirouen ?
La distance joue quand même un peu. Hein. On sait en commerce international que la distance est quand même très très dissuasive aussi. Alors pas forcément dissuasive pour certains composants, mais globalement pour le commerce international, on échange toujours plus avec les pays qui sont proches. Donc c'est quand même un problème. C'est un problème parce que pour livrer un produit de Chine vers la France, il faut un mois. Et en un mois, il peut se passer beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que les statistiques qu'on peut avoir aujourd'hui, à très très court terme, sont difficiles à estimer. Alors, la dépendance, c'est pas uniquement le stade final, je dirais. Il faut se méfier. On risque un jour ou l'autre de découvrir, à notre grand étonnement, que pratiquement tous nos téléphones portables, quelle que soit leur marque, sont produits par une seule entreprise, qui est Foxconn, qui est une firme taïwanaise, qui est localisée d'ailleurs en grande partie en Chine. Donc c'est pas uniquement les composants qui posent un problème, même si c'est de cela que l'on parle aujourd'hui. Il faut attirer l'attention que cette concentration, c'est aussi pour l'assembleur final. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de relocalisation, on parle souvent de relocalisation du stade final, hein, c'est-à-dire pourquoi on n'assemblerait pas toutes nos automobiles ou tous nos ordinateurs en France, quitte à utiliser la robotisation qui se prête bien à cet assemblage. Donc oui, la distance est quand même importante. Elle a diminué dans tout ce qui peut être numérisé, mais tout ce qui est transport logistique est moins facilement numérisable.
Est-ce qu'il faut diversifier les modes d'approvisionnement ou relocaliser, selon vous, Sébastien Jean ? Ou faire les deux?
Il faut se demander quels sont les objectifs que l'on poursuit. Si on se préoccupe, par exemple, de résilience, puisque c'est le terme à la mode, la relocalisation n'est pas nécessairement une solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément plus résilient quand on a tout concentré en France, parce qu'à ce moment-là, on va être très exposé à des chocs qui frapperaient l'économie française. Et d'ailleurs, toutes les études, la littérature, si vous voulez, économique ou de management, ne dit pas du tout ça. Donc, effectivement, alors ça va plutôt amener à une diversification des approvisionnements, dans certains cas à des redondances aussi, des approvisionnements ou des capacités de production, dont il faut savoir que toutes ces stratégies ont un coût important. Donc c'est pour ça que je mettais en avant tout à l'heure les aspects un peu de stratégiques des secteurs, parce qu'il faut se demander si vraiment il y a un besoin en face, et je redis...
Et si le consommateur est prêt à payer davantage ?
Oui, et puis dans quelle mesure c'est vraiment un problème. La plupart de ces chaînes de valeur, en pratique, elles ont bien résisté aux chocs auxquels elles ont été confrontées. Ça a été étudié dans le cadre du tremblement de terre au Japon, des inondations en Thaïlande par exemple. Il y a eu effectivement des perturbations, mais finalement, les entreprises se sont adaptées relativement rapidement. C'est pour ça que il me semble, ce qui est vraiment le problème posé par cette crise, c'est qu'on s'aperçoit qu'au moment où on manque de masques, on n'a pas vraiment les moyens d'organiser notre réponse. C'est pour ça que je pose la question en termes d'autonomie, de notre capacité par nous-mêmes à prendre les mesures nécessaires. Donc là, oui, il peut y avoir, il y a un sens, je crois, à se dire, il faut qu'on ait quand même des capacités de production sur place, parce que même si on veut démultiplier les capacités de production, et il le faut quand on a un choc comme celui-là, hein, sur la production de masques, il faut savoir que la demande a été multipliée par 10, par 20, personne ne pouvait faire face avec les capacités préexistantes. Il fallait les augmenter très considérablement, mais c'est très difficile à faire si on part de rien. Il faut avoir un minimum d'outils de production, un minimum de qualification et d'organisation aussi.
Quels sont les secteurs qui pourraient être relocalisés, selon vous, Jean-Marc Sirouen, sans que cela n'entraîne une augmentation trop importante du coût du produit final ?
Je ne crois pas qu'on doive raisonner en termes de secteur. On doit raisonner en termes de, à la fois, donc, comme je le disais tout à l'heure, de stade final, qui va assembler. C'est pas forcément le plus difficile à relocaliser, mais c'est pas forcément non plus ce qui sera très créateur d'emplois, puisque la robotisation peut faire le travail. Mais dans une automobile, vous relocalisez quoi? Il y a plusieurs milliers de pièces qui sont presque chacune produites dans différents pays. Qu'est-ce que vous allez relocaliser? Donc c'est pas le secteur qui est important. Il faut plutôt poser la question autrement. Quel est le type type d'intrants, c'est-à-dire de composants ou le type d'activité finale, qu'il est possible de relocaliser. Alors possible, ça veut dire à la fois du point de vue des coûts, du point de vue de la logistique, du point de vue de la disponibilité, du point de vue d'un tas de choses. Et on n'arrivera jamais à avoir un Made in France qui représenterait 100% de valeur ajoutée française. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
Mais peut-être un Made in Europe dans des produits stratégiques comme les microprocesseurs, par exemple, où la dépendance à l'égard de la Chine est extrêmement forte.
On a beaucoup à rattraper encore pour les microprocesseurs, mais ça serait bien, effectivement. Mais le lithium, on ne le produira pas en Europe et il y a un certain nombre de produits électroniques qui seraient très très difficiles de reconquérir. Mais il faut effectivement regarder cas par cas. Et même lorsque vous parlez de composants, dans un disque dur par exemple, vous avez aussi des dizaines de pièces qui viennent de pays très très différents. Hein. Et on produira même un disque dur ou un composant électronique, il sera très difficile à ce qu'il soit 100% français, 100% européen, comme il n'est pas d'ailleurs 100% coréen ou 100% japonais.
Il y a toute une réflexion à mener, Sébastien Jean, sur les étapes de production et le type de composants qui pourraient être relocalisés plutôt qu'en France, disons au moins en Europe.
C'est vrai, mais je pense que d'abord il faut se méfier un peu de la pensée magique en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une surenchère de volontarisme politique et que on va relocaliser, qu'il faut finalement se fermer aux échanges pour renforcer notre industrie. Je pense que c'est exactement le contraire. Il faut être conscient que la France fait partie de la zone euro. Elle est complètement liée à la zone euro parce qu'elle partage avec elle à la fois la politique commerciale et la monnaie. Or, la zone euro dans son ensemble est fortement excédentaire dans son commerce de produits industriels. Autrement dit, on produit plus qu'on ne consomme. Si on ferme les frontières, on va devoir produire moins, hein, si on ne produit que ce que l'on consomme. Donc, ça n'est pas comme ça qu'on va renforcer l'industrie de la zone euro. Alors, il est bien évident qu'en zone euro, il y a des déséquilibres et que c'est un gros problème pour nous, Français, de résoudre ces déséquilibres et qu'il y ait une industrie française plus forte. Ce ne soit pas seulement en Allemagne que soit le dynamisme industriel. Ça veut dire qu'il y a un ensemble. Donc, je crois que ce qui est efficace, c'est un ensemble de politiques qui favorise l'attractivité de la France et de l'Europe dans son ensemble comme place de production dans l'industrie. Il peut y avoir dans certains cas des raisonnements stratégiques pour essayer de favoriser certains secteurs par rapport à d'autres, mais c'est une logique qui trouve vite ses limites, hein, parce que le pilotage stratégique par l'État de l'économie, généralement, c'est quelque chose que les acteurs économiques font mieux que l'État. Je pense qu'il faut se recentrer sur les objectifs, disons, les secteurs dans lesquels il y a un rôle de l'État, il y a une politique régalienne en mettre en œuvre, par exemple, il y a un enjeu de souveraineté industrielle ou de souveraineté tout court, et là, on peut effectivement mettre des moyens spécifiques.
On a parlé des défaillances du multilatéralisme. Aujourd'hui, on l'a dit, le commerce mondial est marqué par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'Europe de s'imposer davantage sur la scène internationale et peut-être d'en profiter pour imposer un certain nombre de normes, notamment des normes environnementales, Jean-Marc Sirouen ?
Oui, bien sûr, l'Union européenne est... peut s'immiscer dans ce conflit et se présenter comme une alternative. Maintenant, je reste un petit peu sceptique à la fois sur la volonté de le faire et sur la capacité de l'Europe à le faire, qui tiennent en partie à ses institutions. Nous ne sommes pas un État. Trump, on voit qui c'est. Alors, je me souviens de la phrase de Kissinger qui demandait l'Europe quel numéro de téléphone. Bon, c'est pas tout à fait ça aujourd'hui. L'Europe présente une certaine unité, une certaine structuration. Mais ça me paraît assez difficile. On le voit bien, les divergences de vues et même idéologiques qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'Europe. Se présenter comme trop social, ça c'est un truc de l'Europe du Sud. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouvera dans l'Europe de l'Est ou dans l'Europe du Nord. Pareil pour l'environnement. Donc oui, ça serait une bonne occasion, une bonne opportunité pour que l'Europe puisse s'imposer. Hélas, je crains que ce soit compliqué. Maintenant, ça n'empêche pas de marquer un petit peu l'histoire en affichant une position. Je ne veux pas être non plus totalement négatif. Je pense que l'Europe a fait quelques progrès importants ces derniers temps. L'idée d'une mutualisation ou quasiment mutualisation de la dette, c'est quand même une avancée auquel personne n'aurait imaginé qu'elle était possible il y a seulement quelques mois. Mais sur l'aspect que vous évoquez, l'aspect normatif vis-à-vis du monde, donc en quelque sorte remplacer, se substituer au leadership américain de l'après-guerre, hélas, je suis un petit peu plus sceptique.
Eh bien, on en parlera justement demain de la capacité de l'Europe à se fédérer, à organiser une riposte commune face à la crise du Covid-19. Un grand merci à tous les deux, Sébastien Jean et Jean-Marc Sirouen, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation aujourd'hui, Jean-Christophe Francis, à la console, Anthony Thomasson. On se quitte avec Strange Girl, extrait du nouvel album de la chanteuse folk britannique Laura Marling. Et dans un instant, vous retrouverez la compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. You hate, but you never fit the plan. Stay low, keep brave. I love you, my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave. I love you, my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave. Build yourself a garden and have something to attend. Cut off all relations cause you could not stand your friends. Announce yourself a socialist to have something to defend. Oh yeah. Away.